Bonjour, comme un bruit qui court, c'est le nouveau magazine de reportage de France Inter, une revue vivante des luttes et des alternatives.
Au sommaire cette semaine, le Mexique à Iguala, les langues se délient. En France, la résistance s'organise contre la financiarisation de la psychiatrie. Et à Amsterdam, des mineurs préparent notre avenir.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 de la Maison de la Radio, l'émission qui bidouille le son et chatouille le sens.
Il y a quelqu'un qui disait un malade qui est en psychiatrie, c'est quelqu'un qui a raté sa folie. Je revendique le fait d'être fou.
Nous n'avons plus confiance. Nous devons faire les choses par nous-mêmes.
La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que nous avons gagné au moins un nouvel auditeur cette semaine. Nous commençons donc cette émission en souhaitant la bienvenue à Léo Alexander Verstergren, le fils de notre Charlotte Perry, qui n'est pas là aujourd'hui, et de Karl, le papa, qui vient d'arriver parmi nous. Donc, Léo, comme un bruit qui court. Et donc, cette semaine, c'est Lucia Kuhn qui garde la place de Charlotte au show pour un voyage aux limites de la raison. C'est la question de la place de la folie dans notre monde de chiffres, où les logiques délirantes ne sont pas toujours là où on les attend. Un monde à vif contre un monde de chiffres, patients et soignants s'organisent. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous faire partager un instant, au moins, un peu du rêve des milliardaires de la Silicon Valley, ou comment les tycoons des nouvelles technologies se sont mis en tête de nous écrire notre avenir au nom du progrès et du profit. Enfin, Antoine Chao revient tout juste d'un reportage dans le Mexique à feu et à son. Dans ce pays encore secoué par la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, c'est pour beaucoup de familles, l'occasion de faire entendre leur voix contre le silence, contre la spirale des meurtres et des enlèvements, contre ce qui est devenu un véritable narco-État. Comme un bruit qui court, vous disais-je. C'est le magazine qui, chaque samedi, raconte aux uns comment vivent les autres. Alors bienvenue, petit Léo, dans ce monde de fous.
Antoine Chao. Lucia Kuhn.
Qui manque-t-il ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Ils nous ont tout pris, même la peur, scandale et manifestants, le 20 novembre dans les rues de Mexico. Oui, 2 mois après l'électrochoc déclenché par la disparition des 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, la peur aussi a disparu. Et c'est tant mieux. La société civile s'organise. La corruption et l'impunité, au sommet de l'État comme au fin fond du pays, sont décriées. Somos todos Ayotzinapa. Nous sommes tous des élèves disparus de l'école d'Ayotzinapa, scandaient aussi les manifestants venus de tout le pays en ce 20 novembre. À Iguala, justement, où ont été attaqués et enlevés les élèves de l'école normale rurale, une ville moyenne de 120 000 habitants dans l'état de Guerrero, et sous l'impulsion de collectifs de citoyens, des familles trouvent le courage de partir à la recherche des leurs, disparus depuis plus ou moins longtemps, victimes du crime organisé, organisé au plus haut niveau. L'omerta est brisée, les langues se délient et les fosses clandestines apparaissent, en espérant que la peur ait définitivement changé de camp. Je remercie tous les parents qui sont là, parce que finalement, ce que vous faites aujourd'hui va servir à d'autres familles aussi. Je sais que vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de craintes et de peur de perdre un enfant de plus, et beaucoup ont préféré ne rien faire. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de se taire, il faut que tout le monde se bouge et s'unisse.
Pour mon père, moi j'ai porté plainte, mais ils n'ont pas bougé. Après, mes frères ont disparu, et là on n'a rien fait. Parce que de toute façon, ils ne s'occupent pas de nous. Ils peuvent continuer avec quelqu'un d'autre de la famille et liquider comme ça toute la famille. C'est ça notre inquiétude. Mais je suis quand même là, dans la lutte, pour savoir ce qui se passe.
Oui, c'est le moment. L'union fait la force. Et maintenant, on est plus nombreux et ils vont nous écouter. C'est maintenant le moment de dire ce qu'on a sur le cœur.
Alors, on est à Iguala, sur la place centrale, et il y a une cinquantaine de personnes qui se sont réunies à l'appel de l'UPUEG, l'Union des Peuples et Organisations de l'État de Guerrero, qui propose d'aller sur le terrain pour rechercher les corps des personnes disparues. Et Iguala, ici, cette ville qui est à 2 heures de route de Mexico, c'est vraiment la caricature de la narco-gouvernance. Donc c'est ici, effectivement, qu'ont été arrêtés les bus des étudiants de l'école d'Ayotzinapa le 26 septembre. 6 personnes ont été assassinées et les 43 élèves de l'école ont été séquestrés et sont toujours pas réapparus. C'est la caricature avec le maire Abarca qui était un maire autocrate. Sa femme, qui avait aussi des responsabilités municipales, était la sœur des capos du cartel de narcotrafiquants locaux, Los Guerreros Unidos. Et tout ça, malheureusement, en bonne conformité avec les pratiques de narco-gouvernance mexicaine. Et aujourd'hui, donc, les langues se délient et l'omerta est brisée parce que le maire a été arrêté. Sa femme aussi, après avoir fui, ils ont été arrêtés. Et la police municipale, donc, qui était aux ordres de ce maire, a été déplacée. Certains ont été arrêtés, ceux qui étaient directement impliqués dans la fusillade du 26 septembre et la séquestration des 43 élèves. Donc les familles osent enfin parler, dénoncer cette situation de peur généralisée, cette industrie de l'enlèvement qui sévit en toute impunité, ici notamment, à Iguala, dans l'état de Guerrero, mais aussi dans tout le Mexique.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón.
Yo me llamo María Luisa Bastián.
Je m'appelle María Luisa Bastián.
Me quisieron dar donde más me dolía.
Ils ont voulu taper là où ça fait le plus mal.
Se les va a llegar el rato.
Mais l'heure est arrivée.
Okay, ya está.
Ça suffit.
Alors là, il y a une maman avec une faux et son fils avec une pioche et une pelle qui sont venus ici à ce rassemblement pour aller essayer de chercher les corps dans des fosses qui ont été retrouvées tout autour de cette ville d'Iguala. Et donc, ils ont décidé enfin à passer à l'action et retrouver leurs familiers.
Le 6 janvier de cette année, ils ont attrapé mon frère, juste devant chez ma mère.
Ils ont attrapé ma maman et mon frère de la porte de sa maison.
Alors j'ai voulu déposer plainte, mais ils m'ont dit que j'étais fou.
Así quedó, no me hicieron caso de
mi. Ils n'ont pas enregistré ma plainte.
Me da vergüenza lo que está pasando.
J'ai honte de ce qui se passe.
Quedaron
desfuncionados. Ces fonctionnaires qui sont au pouvoir et qui écrabouillent le peuple.
Pachurrando su pueblo. Sí, señor.
Donc là, c'est la société civile qui s'organise pour essayer de pallier au manquement du procureur général de la République qui mène ses recherches de façon très approximative. Et ça ne satisfait pas du tout les familles de disparus qui ont décidé de s'organiser de façon indépendante pour aller justement voir les fosses et essayer de retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs frères.
Compañeros, formez un équipe de 6 et élisez un responsable.
Voilà, ça se prépare, on va partir. Allez, il faut y aller maintenant. Ça y est, on est monté dans un pick-up. Il y a les pelles, les pioches, une grande bonbonne d'eau. Il y a les chapeaux de paille, les casquettes parce que ça cogne dur. Il y a une dizaine de voitures. Donc avec un vieux pick-up pourri, là, on va monter dans la montagne autour d'Iguala, creuser et essayer de faire que la justice s'active.
Busco mi hermano Tomás Vergara que lo levantaron el 5 de julio.
C'est mon frère Tomás que je cherche. Il a disparu le 5 juillet 2012.
Mi familia se ha puesto mal, mi mamá quiere encontrarlo y por eso estamos aquí.
Toute ma famille le recherche et ma mère est malade et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Nos manejaron como secuestro. Nos pidieron una cantidad.
Il a été enlevé et on nous a demandé une rançon.
Pedíamos hablar con él y nunca nos los pasaron.
Alors nous, on voulait lui parler,
prueba de vida.
Avoir une preuve de vie, mais on ne nous a jamais donné la possibilité de lui parler.
Y si no pagábamos, lo mataban.
Il nous disait que si on ne payait pas, ils allaient le tuer.
500 000 pesos.
Il demandait 300 000 pesos, à peu près 20 000 euros.
No los pagamos.
On ne les a pas payés.
Dos meses duró el
contrato. Ça a duré 2 mois.
Y después de eso, ya nada. Hay mucha gente que estamos iguales. Pensábamos que éramos los únicos.
Et maintenant, on se rend compte qu'on est beaucoup, qu'on est ensemble et qu'on n'était pas seuls, isolés.
Ahora veo que son muchos y da valor eso.
Et ça donne du courage de voir ça.
Por eso estamos aquí.
C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Porque nos dieron valor.
parce qu'on nous a donné du courage.
Vamos a ver lo de las fosas, las vamos a numerar, no sé qué se puede hacer, ignoramos, no tenemos
información. On va monter à la colline voir les fosses, on va les repérer, on va les numéroter, on ne sait pas exactement ce qui est possible de faire.
Pero hay gente buena que se ha unido.
Mais il y a des bonnes personnes qui se sont réunies aujourd'hui.
Hay una señora que tiene 40 años buscando a su papá y nos da más fuerza.
Il y a une femme qui cherche son père depuis 40 ans et ça nous donne de la force aussi.
Y nos está dando experiencia.
Et elle nous apprend, elle nous donne de l'expérience.
Y valor.
Et du courage, beaucoup de courage.
No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una.
Hay les pelles qui sortent, les pioches. C'est parti, on y va.
Hay un pico más aquí si necesitan.
Il y a des groupes qui se sont répartis dans toute la zone et qui cherchent à voir s'il y a de la terre qui a été retournée dernièrement. Vérifier s'il n'y a pas des petites craquelures dans la terre.
Pour à quel lado, Miguel ?
Qui pourrait prouver que les décors sont en décomposition dessous. Et Miguel, c'est lui qui dirige un peu cette opération, qui creuse là. Elle est toute molle la terre là.
Donde esté más blandito, ahí entiérrala.
Il faut enfoncer la barre à mine le plus loin possible et voir si on détecte une odeur de cadavre. Là, ça s'est enfoncé d'un mètre au moins là. Ah, là on vient de trouver un os là. Il y a un os qui vient d'être découvert d'un coup de pelle.
Mira,
qui vient d'être déterré de cette fosse. Il y a certainement des corps qui sont là enterrés et vraiment pas très très profondément parce que là on a à près 50 cm. Ce fémur est sorti de terre, alors c'est quand même impressionnant de voir ça et se dire qu'il y en a peut-être des dizaines et des dizaines ici et tout autour de cet endroit et dans toutes ces montagnes alentours et peut-être même dans tout le Mexique, des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de corps comme ça qui ont été ensevelis, disparus. Voilà la réalité du Mexique et voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la peur a disparu et les gens osent dénoncer, osent dire ce qu'ils ont vu. Osent venir ici chercher sans l'autorisation des autorités qui font tout ce qu'ils peuvent pour freiner au maximum les recherches et la découverte de ces fosses. Il y a un petit drapeau qui vient d'être enfoncé voilà, pour repérer cette première fosse qui vient d'être découverte.
Encore une autre là-bas.
Dale, señores, a seguir buscando, por favor.
C'est directement au bord du chemin qu'une nouvelle fosse vient d'être trouvée. Ça sent mauvais, on sent une odeur là, pestilentielle qui sort de cette fosse là. C'est un t-shirt enterré, un t-shirt rouge, une chemise et c'est plein de mouches qui s'envolent. Et les personnes commencent à se couvrir le nez parce qu'il y a une odeur quand même qui sort, une odeur de macabée et ça sent mauvais. Donc là, la fosse 2, ce sera une femme qui serait enterrée là. Les restes du corps d'une femme qui serait enterrée. Et là encore une autre ici, il y en a partout quoi. Qui veut des drapeaux? Ici, il faut un drapeau. Quelqu'un qui arrive avec une pelle et une barre à mine, il va te creuser. Alors il faut toucher à rien, effectivement, il faut rien jeter par terre en espérant qu'un jour il y ait une enquête qui soit menée ici, une enquête en bonne et due forme, plutôt qu'un simulacre de justice. On est au pied des montagnes en fait là. Il y a une végétation assez dense, mais du taillis, de la broussaille. Il y a des belles fleurs bleues qui sortent.
Manto de la Virgen.
La robe de la Vierge. C'est des belles fleurs bleues.
Manto de la Virgen.
Et là, tout d'un coup, il y a des vautours là qui se sont mis à tourner au-dessus de la zone où les fosses ont été trouvées. Donc il y a deux vautours qui se sont mis à tourner là. C'est quand même incroyable. On continue sur le flanc de cette montagne autour de d'Iguala. Il y a des nopales, tout est des cactus nopales.
Nopales. Ah, ce sont nopales. Et c'est organo.
Et là, il y a un cactus organo.
Organo.
Comme un orgue d'église.
C'est la Semaine Sainte qui se cargue de ça.
Et pendant la Semaine Sainte, les pénitents mettent des cactus sur leur dos.
Que passo?
Non, la toquen, déjenla.
Donc on va trouver une pièce d'identité là. Une pièce d'identité par terre.
Antunes Soto.
Bonnie Enrique.
Bonnie Enrique.
Colonia Benito Juárez, Tololoapan, Dios mío.
Et a priori, donc là, il y aurait une autre fosse, mais qui n'a pas du tout été repérée. Parce que ça, on les repère aussi par les restes de campements des sicaires qui ont bu de la bière, des bouteilles, pendant qu'ils creusaient les fosses et qu'ils assassinaient. Alors, il y a un petit dépotoir là. Il y a une ceinture, des baskets et des bouteilles tout autour là. Je trouve qu'ici il y a peut-être eu le campement des assassins qui ont enterré ici leurs victimes. Antunes Soto Boni Enrique. Credencial para votar, c'est sa carte d'électeur. 23 ans.
Ya tenemos el dato.
Ya no confiamos, hay que hacer las cosas por nosotros mismos.
Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo.
Ya no queremos más desaparecer.
Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no tengo miedo. Salgo a encontrarte a medio camino.
Que llevan en paz. Ya no queremos más desaparecidos.
La famille de Boni Enrique, qui habite à une cinquantaine de kilomètres de là, s'est rapidement manifestée. Il avait disparu depuis plus d'un an, ainsi qu'une vingtaine d'autres jeunes de son village. Et il en manque d'autres à l'appel, quelques dizaines de milliers, surtout le Mexique. Et pour les 43 de l'école normale rurale, toujours pas de nouvelles, toujours pas de scénario crédible. La mobilisation citoyenne continue de plus belle et nous irons là-bas, à l'école d'Ayotzinapa, la semaine prochaine. Et tout de suite, on retrouve Lucia Kuhn, un monde à vif contre un monde de chiffres.
Comme un bruit qui court !
Nous tenons à vous remercier. Vous avez trouvé le temps pour continuer votre engagement à résister à cette régression et à l'obscurantisme actuel. Nous avons dénoncé la dérive sécuritaire. Nous avons dénoncé la dérive normative, mortifère.
Il n'y a pas de marché pour les années de vie. Un investissement en psychiatrie sera plus efficient que dans d'autres domaines.
Je revendique le fait d'être fou. J'y tiens à ma folie.
C'est à nous tous ici de faire entendre une autre voix.
Et si le fou était celui qui résistait à notre volonté mortifère de normalisation ? Aujourd'hui, on agit au nom de l'adaptabilité, au nom de la bonne santé mentale, érigée en norme, en vue d'une bonne santé économique. Car oui, il faut le dire, en France, les fous coûtent cher. Pas moins de 110 milliards d'euros par an, selon la Fondation Fondamentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que le taux de rendement de la recherche en psychiatrie est de 37%, toujours selon cette même fondation. C'est justement contre cette financiarisation du soin, contre la recherche de rentabilité aux dépens de la relation qui unit le soignant et le patient, que le collectif des 39 s'est rassemblé à Montreuil, en novembre, en relançant la question de la place de la folie dans notre société. Et nous, nous y étions.
Alors l'idée est d'avancer dans la construction d'une psychiatrie suffisamment bonne. Dimension biologique, sans éthique ou en TOC, où le truc nommé transfert est nié. Les experts non conviés au banquet viennent dévorer le soin mental. Manque de moyens, pression croissante, pression bureaucratique. Alors Tosquelles disait qu'il n'était pas nécessaire d'être fou pour travailler à Saint-Alban, dans cet hôpital psychiatrique, mais que ça a aidé. Et on peut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être con pour travailler dans la bureaucratie, mais que ça aide.
Je peux vous interroger sur 5 minutes
pendant que vous fumez ? Si vous voulez, oui. Hervé Bocobza. Je suis à l'initiative de la création du collectif des 39.
Quand est-ce qu'il est né, ce collectif ?
Il est né en décembre 2008, juste après le discours de Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré que les malades mentaux étaient potentiellement dangereux. Tous, qui sont les plus démunis d'entre nous, qui avaient été stigmatisés d'une façon inacceptable par le plus haut représentant de l'État.
Vous vous souvenez tous du meurtre commis il y a quelques semaines à Grenoble ? Par un malade qui avait fugué de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève.
Nicolas Sarkozy.
Voici une personne.
2 décembre 2008.
Qui avait déjà commis plusieurs agressions très graves, dans les murs et hors les murs. Mon devoir, c'est de protéger la société de cette violence éruptive. Nous allons d'abord réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation. Et je souhaite qu'on aille plus loin.
Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus notre président de la République. Qu'est-ce qui a changé entre 2008 et 2014 ?
Ça s'aggrave. Les lois qui étaient auparavant dénoncées par l'opposition de l'époque, notamment la loi HPST, restaient en place. Il y a une conception aujourd'hui extrêmement simpliste de la souffrance psychique, qui est une conception qui élimine tout ce que l'homme a d'humain en lui, ça veut dire sa complexité, ses ambivalences, qui sont l'essence même de l'humanité. Or là, on est dans un système d'homogénéisation de foule, de masse.
Quel est le risque majeur aujourd'hui de cette visée là par la Haute Autorité de Santé et toutes les directives qui s'appliquent à la psychiatrie ?
Le risque majeur, c'est le retour à des pratiques asilaire, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus de moyens, quand il n'y a plus de temps, quand il y a des tyrannies permanentes et au quotidien pour remplir des petites cases, des machines informatiques, des transmissions par petites croix, on ne peut plus rencontrer les patients. Donc on va faire une psychiatrie sans les patients. On va traiter des maladies et non pas des sujets malades.
Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, la Haute Autorité de Santé ne veut pas le bien de tous ces malades ?
La Haute Autorité de Santé est une société antidémocratique, pseudo-scientifique, qui ne se base que sur des dimensions statistiques internationales qui n'ont rien à voir avec la pratique au quotidien. On ne peut pas travailler sans utopie. Et on est des utopistes assumés, et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas autrement résister. C'est l'utopie qui nous fait résister. Parce que la folie, c'est ce qui fait l'humanité de l'homme.
Des interventions de soignants au collectif des 39, mais pas seulement. Ils étaient là, à Montreuil, les patients du centre Artaud de Reims, qui, depuis 3 ans, ont monté une fanfare.
Il t'a dit Moi, c'est Dominique.
Marilyn, vous êtes venue faire quoi ici? Enflammer la maison de l'arbre.
Oui, puis enflammer en même temps. Hein. On organise à chaque fois une petite...
Un petit
intermède aux fêtes de Noël, aux fêtes d'été, depuis qu'on fait la fanfare avec Guillaume.
Donc vous êtes une fanfare
de soignants et de patients.
Et on répète tous les mardis.
On va leur accordéon, puis maracas.
On va les claves, il y a la grosse caisse, il y a le djembé.
Est-ce qu'avant de participer à la fanfare, vous aviez déjà fait de la musique?
Jamais.
Ouais, oui.
Donc moi, ça m'apprend le rythme. J'ai un peu de mal, mais bon, ça y est, ça vient. Alors,
ça vous plaît?
Oui, très bien, oui. Oui, ça fait du bien. Hein.
Vous, ça fait combien de temps que vous fréquentez le
centre
Arto?
Oh là là, ça fait depuis 2001. C'est pour la première fois que j'y rentrais suite à des problèmes familiaux que j'avais eus. J'avais été un peu hospitalisée à la clinique. Et on m'orientait au centre Arto et... mon médecin m'avait dit « je vous garde 5 ans ». J'ai dit « oh, jamais de la vie, je serais partie avant ». J'ai dit « j'ai rien, je ne suis pas folle, enfin j'ai rien quoi ». Et en fin de compte, ça fait 13 ans que j'y suis, puis que j'ai toujours suivi. Et puis je suis bien, oui, j'en ai besoin. Si je me retrouve moi chez moi toute seule, enfermée, je cogite et ça redémarre. C'est comme le traitement, si on l'arrête, et on rechute.
Si je n'ai pas ça dans la semaine, ça manque. Ça fait partie autant du traitement qu'un cachet. Tu vois, là, Guillaume, c'est un soignant. Mais moi qui suis patiente, c'est comme ça fait longtemps que je fais de la musique, il me demande des trucs, on échange. Ce qui fait que ce n'est plus la relation soignant-patient, mais c'est plutôt amical, entre guillemets. C'est des vraies relations, chose que j'ai du mal à faire à l'extérieur, en fait.
Donc en fait, les médicaments, bien sûr, c'est nécessaire, c'est mais nécessaire. Ça ne fait pas tout.
Il faut un à côté.
Il faut un complément de soins, je veux dire.
Voilà. Après tout, on est comme tout le monde. Hein.
Et entre malades, on s'entraide.
Oui, voilà.
Puis avec un petit coup de fanfare en plus.
Voilà. Très content de la fanfare.
Voilà, on fanfaronne.
Merci.
Bon après-midi à vous.
Merci.
Comme un bruit qui court.
Autre jour, autre ambiance. C'est à Créteil, au cœur du pôle de psychiatrie de l'hôpital Albert Chenevier, qu'est basée la fondation fondamentale présidée par David de Rothschild. D'ailleurs, lui et Claude Bébéard, ancien PDG, fondateur d'AXA et actuel président du très libéral Institut Montaigne, ont fait paraître une tribune dans le Figaro intitulée « Maladie mentale, un fléau sous-estimé ». Il rappelle qu'aujourd'hui, la maladie mentale est la deuxième cause d'arrêt de travail. Et quand il y a perte de productivité, il y a urgence d'agir.
Je crois qu'on est un tout petit peu en retard. Donc il va falloir qu'on prenne en route la conférence « À quoi servent les études médico-économiques en santé mentale et comment les mener à bien » d'Isabelle Durand-Zaleski.
Européen tout à l'heure. On a des années de vie perdues, d'accord? Si vous suicidez à 50 ans, vous perdez 30 ans, donc vous perdez 30 fois 30 000 livres. Alors, combien ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte? C'est l'évaluation médico-économique, c'est ça. Et donc, vous vous demandez quel est le maximum que je dois être prêt à payer pour procurer à une personne une année de vie en bonne santé de plus.
Isabelle Durand-Zaleski, donc je suis médecin de santé publique à l'hôpital Henri Mondor.
Et vous travaillez également à l'URC ECHO.
Donc je suis responsable d'une unité de recherche qui est spécialisée dans la recherche en économie de la santé et système de santé.
Quel est le gain à regarder la maladie mentale du point de vue de l'économie? C'est particulier comme focus, comme angle.
Alors c'est une démarche qu'on peut appliquer à toutes les maladies, d'essayer de comparer le coût investi et le rendement en termes de santé d'abord et de réduction des coûts à plus long terme d'autre part. Il n'y a pas de marché pour les années de vie. Donc il y a un marché pour les vêtements, pour la nourriture. Et donc si vous décidez d'acheter une pomme ou un café ou un pull, ça veut dire que pour vous, cette pomme, ce café ou ce pull ont la valeur qui est marquée sur l'étiquette. Il n'y a pas de marché pour les années de vie. Et donc il a fallu essayer d'imaginer ce que pouvait valoir pour un pays, une année de vie d'une personne en bonne santé.
Donc regardez ce que les décideurs dans le pays ont accepté de financer, puisque le décideur achète ses années de vie pour sa population à ce prix-là.
Il y a quand même quelque chose d'étrange dans l'idée de rapporter une année de vie, c'est-à-dire d'existence complètement immatérielle, à un coût financier.
Alors on est obligé de le faire, puisque lorsqu'on investit de l'argent dans le système de soins, on a à faire des choix, reconstruire les routes, augmenter la sécurité de certains bâtiments, etc. Un des intérêts d'avoir ces chiffres, c'est de montrer qu'éventuellement, un investissement en psychiatrie rapportera, sera plus efficient que dans d'autres domaines. Puisque le présupposé, c'est que finalement, tout le monde est en concurrence pour l'argent public. Si vous investissez dans la santé mentale plutôt qu'ailleurs, eh bien, le rendement en année de vie sera supérieur à ce qu'il serait si vous investissiez ailleurs.
Donc en fait, investir pour l'État dans la santé mentale, c'est un bon investissement, c'est rentable.
Ça, c'était le rapport que je citais, qui est publié par la Rand Corporation européenne, qui montrait cela.
Pierre Dardot, philosophe.
Alors, je ne vous ai pas vu à une conférence pourtant majeure à laquelle j'ai assisté avec beaucoup de chance. La conférence d'Isabelle Durand-Zaleski a prouvé scientifiquement que la valeur d'une vie par année était de 30 000 euros.
Oui, alors ça c'est ce qui fait sourire, mais ça ne devrait pas faire sourire, dans la mesure où justement ça procède d'une logique qui est celle de l'évaluation quantitative ou comptable de l'humanité. Ce qu'il y a de particulièrement grave, c'est que c'est une logique qui n'est pas purement économique dans la mesure où elle débouche sur des politiques publiques qui est indissociablement économique et politique. C'est exactement ça, le néolibéralisme. Et ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne bien que cette obligation entrepreneuriale des résultats implique de sacrifier l'obligation de soins.
Oui, mais vous, Pierre Dardot, vous êtes philosophe et vous semblez ignorer tout de la rigueur budgétaire, non ?
Alors, je n'ignore pas tout de la rigueur budgétaire. La rigueur budgétaire est une chose, et puis la place que l'on donne à la singularité de chacun dans une société en est une autre. Et la pire des choses, ce serait justement d'imposer une logique un peu abrasive comme ça, qui supprimerait la singularité, l'hétérogénéité, etc., pour ne faire prévaloir à l'échelle de la société qu'une seule logique.
Le truc aujourd'hui, c'est que c'est ça, les gens qui souffrent le plus sont les plus maltraités, quoi. Clairement, les pseudo-progrès de la médecine et de la science concernant la psychiatrie, ils sont totalement oublieux de ce que peuvent être les gens les plus souffrants.
Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante.
Je crois que ce qui est dans le néo-capitalisme, le néolibéralisme, il y a une dimension de la folie qui ne peut pas être acceptée ni intégrée, parce que ça fait partie des aléas qu'on veut toujours maîtriser et rationaliser. Et ça, c'est impossible.
Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas. Des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous.
Il y a quelqu'un qui disait un malade qui est en psychiatrie, c'est quelqu'un qui a raté sa folie.
Et pourtant.
Et moi, j'ai espoir qu'on puisse un jour reconnaître que, on puisse laisser ça s'exprimer, quoi.
Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché, et qui demandent qu'à être sortis. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt, parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles, qui desserreront jamais les mâchoires, sauf pour sortir les crocs.
Je revendique le fait d'être fou, j'y tiens à ma folie, et au fait que je suis pas totalement congruent avec le monde qu'on me propose. Donc voilà, ouais, je suis contre l'adaptabilité des gens. Adaptons le monde.
Mais sans qu'on se casse la gueule.
Je suis
Mathieu, moi.
Un des membres
du MAPSI, ouais.
Fondateur ?
Fondateur.
Et on va où, là ?
Là, on va à la Friche artistique. La Friche, c'est un lieu de résidence qui est mis à la disposition par la ville de Reims pour des artistes de toutes disciplines.
Vous y passez voilà. La journée ?
Ouais. Ça mesure combien, Mathieu, ça ?
30 mètres au moins de long.
30 mètres de long sur 10 mètres de large. Puis il y a une personne au fond là-bas qui est en train de travailler. On va pas aller la déranger.
Assise sur une table.
Alors voilà. C'est comme un grand hangar en fin de compte. Voilà. Et donc là on va descendre pour aller dans un autre espace qui s'appelle la forge. C'est là où moi j'ai mon atelier. Attention aux escaliers.
UMAPSI, c'est quoi, Mathieu ?
UMAPSI, c'est une association type loi 1901, fondée par des patients en psychiatrie. On a défini le terme comme ça. Nous, on a banni le terme usager.
Pourquoi avoir banni le terme déjà usager ?
Enfin, nous, on n'a pas la liberté d'user ou de ne pas user du système. Pour moi, un usager, ça a toujours été, je sais pas, l'usager de la SNCF. Il peut prendre le train, mais s'il n'est pas content, il passe son permis, il prend une bagnole. Pour les gens qui sont en psychiatrie, le choix est très peu souvent offert. Et puis, le terme usager, pour moi, ça a aussi une notion de, je sais pas, de commerce. Quoi. C'est un peu comme s'ils nous avaient dit, vous êtes des clients. Bah, nous, on préfère dire qu'on est des patients dans la mesure où on soigne, on est suivi par une équipe, etc. Et moi, je me définirais plutôt comme usager avec un « et » accent aigu à la fin, on va dire. Voilà. Après, sur UMAPSI, quoi d'autre ? Le fait d'arriver en psychiatrie ne soit pas la fin de tous les droits humains, quoi. Je veux dire, on est en France, théoriquement le pays des droits de l'homme, et il y a des endroits en psychiatrie où clairement les droits de l'homme sont méprisés. Simplement, le fait d'attacher quelqu'un, le minimum d'humanité serait de laisser quelqu'un à côté pour lui parler, quoi. On vous met dans une pièce, mais en plus vous n'avez même pas le droit de toucher les bords. Faut vraiment pas contaminer l'humanité avec votre folie. Nous, on se bat pour les gens qui sont enfermés, attachés, et qui ont beau crier, personne ne les entend. Quoi. Et donc tout ça, nous, on essaye aussi, avec UMAPSI, d'ouvrir des espaces de parole où même les professionnels peuvent discuter de ça entre eux, parce qu'on leur donne même plus à eux l'occasion de le faire.
Est-ce que vous avez l'impression, en fait, que ce qui se passe en psychiatrie, c'est comme un effet loupe ? Sur la société, c'est un grossisseur.
Moi, je suis pas là dans cet endroit à la Friche par hasard. Tu peux regarder autour de toi. Moi, j'ai envie d'être à la fois le catalyseur, mais carrément le microscope, pas la loupe, le microscope. Parce que comme tu dis, la psychiatrie est vraiment l'effet loupe du monde, et ça de tout temps. Ouais.
Ah, il fait nuit. Fred, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais fou ?
Ah bah ouais, on me l'a déjà dit. Même on me l'a dit relativement tôt, en réalité.
Et toi, est-ce que tu te l'es déjà dit ?
Ah bah ouais. Souvent, quand je fais certaines choses, je me dis, mais putain, faut vraiment être fou pour faire ça.
Du genre ?
Bah, faire la queue à la caisse, foutre de l'essence dans ma bagnole, il y a des trucs, c'est fou ! C'est de la pure folie, quoi. Quand je suis face au mur d'argent dans ma banque, j'insère ma carte dans le distributeur et tout, waouh, je me dis, mais t'es bien perché, mon pote, quand même.
À passer du temps avec les fous, on se demande si finalement ce ne sont pas eux les plus normaux. Rencontre avec la directrice de Fondamental, fondation qui cherche dans la maladie mentale des causes biologiques pour expliquer le déficit d'adaptation de certains individus à la société.
Là, c'est le pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Mont-d'Or, qui est un gros pôle puisqu'on est responsable de la santé mentale de 300 000 habitants du Val-de-Marne. Et qu'en plus, on a créé donc cette fondation qui s'appelle la Fondation Fondamentale, qui a été créée par le ministère de la Recherche il y a 7 ans. Alors, je m'appelle Marion Leboyer, je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil. Je dirige le pôle de psychiatrie du groupe hospitalier Mont-d'Or. Je dirige aussi un laboratoire INSERM en psychiatrie génétique et la Fondation Fondamentale.
Pourquoi il y a un enjeu économique dans la question de la santé mentale ?
Alors, il y a un enjeu majeur sur le plan sociétal et économique, parce qu'on ne sait pas assez aujourd'hui que les maladies mentales sont un enjeu à la fois sur le plan du coût à quel elles sont associées, en termes aussi de souffrance qu'elles représentent pour les patients et pour leur entourage. Et tout ça se traduit par des chiffres. Et en France, le coût direct et indirect qui est induit par les maladies mentales est de 109 milliards d'euros par an. C'est un enjeu économique et c'est un enjeu politique et qui nécessite que les décideurs de ce pays soient informés de l'ampleur du problème et des solutions que nous proposons ou des demandes que nous formulons. Donc effectivement, c'est un acte politique. Une grande partie du travail que nous faisons ici, c'est d'essayer d'améliorer la qualité et la précision du diagnostic en essayant d'identifier et de découvrir ce qu'on appelle des biomarqueurs. Et à chaque étape de l'évolution de ces maladies, on voudrait pouvoir trouver une signature biologique spécifique qui nous permette, là encore, d'être extrêmement précis dans ce qu'on peut faire sur le plan des thérapeutiques.
Est-ce que vous avez un bon capital de santé mentale ?
Écoutez, j'espère.
Comment on peut le savoir ?
Les maladies mentales, c'est des maladies comme les autres, et je crois que quand on est malade et qu'on se soigne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez le droit de dire dans votre émission qu'on a besoin de sous, nous.
Retour à Reims, au centre Artaud.
Merci.
Rez-de-chaussée, donc c'est la salle d'accueil qui fonctionne de 9h à midi et de 2h à 5h pour le centre d'accueil. Et puis on a des salles d'accueil au premier étage qu'on peut visiter après. Et au fond, un palier qui nous sert également de salle de réunion, de lieu de relaxation, de lieu également où la fanfare répète tous les mardis après-midi sous mon bureau pendant mes consultations que je peux rythmer sur des rythmes brésiliens. Puis au deuxième étage, on a le secrétariat avec des bureaux de consultation médicale. Et il y a encore un étage de bureau de consultation. On va se mettre dans mon bureau. Patrick Chemla, donc je suis psychiatre, chef de service dans un service rémois et j'anime le centre Antonin Artaud dont j'ai été donc à l'origine depuis les années 80. Il faut quand même savoir que tout le monde utilise les mêmes médicaments aujourd'hui. Hein. La différence, c'est qu'on essaie de construire une relation sociale, psychique, relationnelle avec les patients. Si on détruit ce type de boulot que nous faisons au centre de jour, qui se produit dans d'autres lieux que le nôtre, si ces lieux-là se trouvent en difficulté ou détruits, alors on va avoir au contraire une aggravation de la crise. Tout le monde sait, les gens quand ils voient un film de Woody Allen qui raconte qu'il fait une analyse pendant 20 ans, les gens se marrent. Mais quand on dit qu'on peut consacrer 15 ans de thérapie à un psychotique, tout le monde est scandalisé en regardant le coût que ça représente. Si on pense que la folie n'existe pas, qu'il n'existe que des maladies dont on va trouver le code génétique, la cause biologique directe, ce qui est le discours à la mode aujourd'hui, alors on va avoir de très grosses déconvenues.
Mais alors face à vous, la Fondation Fondamentale, qui fait un lobby extrêmement puissant au niveau politique, à coup de grands renforts d'analyses économiques, prend de plus en plus de place dans le milieu politique.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens donnés par le patronat de payer des gens qui ne font que du lobbying. Bon, nous, on est des soignants, donc on passe notre temps auprès des patients. Donc ça suppose aussi une mobilisation politique avec d'autres collègues, des familles, des patients qui souhaitent une psychiatrie humaine. Donc c'est toute la tentative actuelle du collectif des 39. Se mobiliser pour se faire entendre, non seulement préserver des choses acquises, mais aussi en créer des nouvelles, que ça concerne non seulement les psychiatres et les malades, les familles, mais que ça concerne aussi le rapport que la société entretient avec ses propres zones d'ombre, ses zones de folie. Il faut qu'il y ait une remobilisation de toutes ces personnes-là. Yeah.
Yeah.
Bon, on a vu comment la financiarisation venait s'infiltrer chez les fous. Mais maintenant, imaginez des vrais fous, eux, qui ont vraiment beaucoup d'argent. La suite du reportage de Guy Vanctil chez les milliardaires qui préparent l'avenir.
Entendons-nous bien, quand on dit à quoi rêvent les patrons, c'est pas les petits chefs ou les PDG pépères, mais ceux qui vont de l'avant, qui repoussent les frontières. De ceux que nous avions rencontrés dans la Silicon Valley à l'université de la Singularité. Eh bien, pour les entrepreneurs du futur, la nouvelle conquête de l'Ouest se trouve juste au-dessus de nos têtes, dans l'espace. C'est le rêve que vend Peter Diamandis avec ses amis milliardaires de Google, Apple et Virgin. Ce petit bonhomme débordant d'énergie à la tête de dizaines de compagnies dans les nouvelles technologies s'est promis de rallonger notre durée de la vie, de nous transformer en cyborgs, de réécrire le code génétique. Et si vous lui dites que dans son monde d'abondance, tout marche de travers, il vous dit « c'est pas grave », il vous rétorque que la nouvelle frontière vous tend les bras, c'est dans l'espace. Quand je lui dis que c'est l'idée qu'il vend, ça coûte quand même 2000 euros par tête de pipe. Et nous, dans le cadre de notre mission de service public, nous nous sommes faufilés dans leur toute dernière conférence à Amsterdam la semaine dernière pour voir nous aussi rêver, nous aussi aller de l'avant.
Silicon Valley comes to Amsterdam for the first time. And you are invited.
Hi, this is Peter Diamandis, co-founder and executive chairman of Singularity University.
Bonjour, je suis Peter Diamandis, co-fondateur et PDG de la Singularity University.
I'm going to be there with an incredible faculty at the Singularity.
Et je serai là au sommet Europe de la Singularité pour raconter comment les technologies exponentielles vont transformer chacun des aspects de votre vie.
Welcome to Exponential Times.
Bienvenue dans l'ère exponentielle.
Alors, nous voici à Amsterdam, dans un très prestigieux théâtre où est organisé cette semaine Singularity University Summit Europe. Vous, Yuri, vous êtes un des promoteurs de cette idée.
Oui, la plupart des gens ici sont des dirigeants de grandes compagnies, le top des leaders, des PDG et des décideurs.
Oui, parce qu'ici, ça coûte 2000 euros la participation.
Oui, les tickets coûtent très cher, c'est 2000 euros par personne, mais c'est un événement très select, avec des speakers qui prennent cher. Mais les gens vont être bluffés, ils vont se dire « Waouh, voilà 10 révolutions technologiques qui arrivent en même temps ». Nous allons vers un monde d'abondance, c'est ce que dit Peter Diamandis, et je le crois. C'est en train d'arriver.
Please welcome him to the stage.
Please join me in welcoming Peter Diamandis.
Peter Diamandis, vous êtes un des cofondateurs de la Singularity University, serial entrepreneur, c'est-à-dire entrepreneur en série.
Je suis quelqu'un d'absolument passionné par la conquête de l'espace. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de problème sur cette Terre que nous ne puissions résoudre. Je suis un gamin de 9 ans qui réalise ses rêves. On peut commencer comme ça.
Le nom de l'université de la singularité vient du livre de Ray Kurzweil, mon partenaire et cofondateur. Et c'est l'idée que le progrès accélère aujourd'hui à une telle vitesse qu'il deviendra impossible d'avoir la moindre idée de ce qui se passera d'ici 5 ans.
The next 25 years are going to be an extraordinary ride. Buckle up and let's get started.
Ce que je vois, c'est que c'est une religion de salut terrestre à nouveau qui réapparaît avec deux mots-clés, la technologie et le capital, l'entrepreneurship, et qui réinstaure la foi en un progrès.
C'est parce que chacun d'entre nous avons accès à des technologies proprement extraordinaires. Que vous soyez adolescent à Bombay ou un PDG à Paris, vous avez accès à toutes les informations du monde grâce à Google. C'est complètement dingue. Vous avez plus d'informations au creux de la main que n'en avait le président des États-Unis ou de la France il y a 20 ans de ça.
Mais
ce n'est pas seulement de l'information et des ordinateurs. L'impression 3D, la robotique, c'est tout un monde de nouvelles technologies qui arrivent et qui deviennent de plus en plus puissantes chaque année.
Et si on regarde au cours des 100 dernières années, la richesse produite par tous les pays a plus que triplé. La durée de la vie humaine a plus que doublé. Le prix de la nourriture a été divisé par 13. Le prix de l'énergie a été divisé par 20. Et le prix des transports a été divisé par 100. On vit à une époque où vous avez 500 fois moins de chances de mourir d'une mort violente qu'auparavant. Et qu'est-ce qui a rendu possible tous ces progrès extraordinaires au cours des 100 dernières années? C'est la technologie. C'est la seule chose qui a apporté tous ces progrès. La technologie accélère encore son rythme et elle va apporter ce monde d'abondance.
C'est la conférence qui va reprendre de ce Singularity University Summit Europe. Peter Diamandis, parlez-moi aussi de votre grande haute société qui est une société d'exploitation minière des satellites de l'approche banlieue terrestre. Alors est-ce que c'est encore une idée saugrenue ou est-ce que c'est quelque chose qui est viable ?
Planetary Resources part de l'idée que la seule chose qui a repoussé les frontières et ouvert de nouveaux horizons, c'est l'accès aux ressources. Les colons américains à la découverte de l'Ouest pour l'or, puis le pétrole, et ainsi de suite. C'est cette recherche qui nous a fait avancer. Et si on y réfléchit bien, presque tout ce qui a de la valeur sur Terre, métaux, minéraux, énergie, se trouve en quantité presque infinie dans l'espace. Et nous avons monté une compagnie avec Eric Anderson, avec aussi l'appui d'une douzaine de milliardaires comme Larry Page et Eric Schmidt de Google, pour envoyer des vaisseaux spatiaux, des drones de l'espace, vers les astéroïdes proches de la Terre. C'est un vrai supermarché débordant de ressources. Ces astéroïdes sont des mines de nickel, de fer et de cobalt, et aussi de minéraux comme le platine, le palladium ou l'iridium. Donc notre but est de commencer la prospection dans les 5 prochaines années. Tout ça est très difficile, mais les profits sont immenses. On parle ici de milliers de milliards de dollars de ressources.
Hi, I'm Chris Lewicki, President and Chief Engineer at Planetary Resources. While our primary mission is to prospect and mine asteroids, we also want to inspire a new generation about space and all of its potential. Join us as we invent the future.
Vous savez, j'ai eu l'honneur d'être invité par Bill Clinton pour la cérémonie de clôture de sa fondation à Manhattan, où il m'a interviewé.
In 2007, at the Clinton Global Initiative,
et il m'a demandé, « Peter, comment fais-tu pour être aussi optimiste pour le futur? Tu ne regardes donc pas les news ?» Et je lui ai répondu, Monsieur le Président, j'essaie de ne pas regarder les infos.
C'est ça, c'est que derrière le projet économique, le projet entrepreneurial, le projet même scientifique, il y a aussi une toile de fond de tout ce programme de la singularité, il y a aussi une toile de fond politique aussi, il y a un cadre politique que vous ne négligez pas.
Les gouvernements, les pouvoirs publics vont avoir du mal à s'adapter au rythme du changement. Parce que le rôle d'un gouvernement est de maintenir les choses comme elles sont, en l'état. Mais quand le rythme du progrès accélère, comme il le fait aujourd'hui, le gouvernement intervient en disant « Attendez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites et je vais imposer des règles. » Mais dans le monde actuel, vous ne pouvez plus réguler ce type de technologie. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Donc, nous allons devoir apprendre à nous adapter et nous réinventer. Et malheureusement, le plus difficile sera comment réinventer et adapter les pouvoirs publics, les gouvernements.
Create a new generation of entrepreneurs.
C'était Comme un bruit qui court, une émission réalisée par Joseph Caraballona, assisté de Karen Dehaye. Et à la technique aujourd'hui, Fabrice Desmas et Julien Dumont.
Sur la page de l'émission, vous pouvez nous laisser vos commentaires, ainsi que vos remixes du Radio Hits Yourself, bientôt augmentés avec des nouveaux sons du Mexique qui arrivent d'Antoine. Et puis juste après le flash, vous retrouverez Colin et Mauduit, si l'Amérique m'était comptée.